Bonjour tout le monde. Étant donné que d'habitude nous étudions, je crois, le Sidour, le jeudi, n'est-ce pas? Mais comme nous sommes dans une période un peu particulière, celle de Ben HaMetzarim, j'ai pensé à faire une petite étude sur le Ben HaMetzarim. Nous avons passé le jeûne du 17 Tammuz et nous sommes en route vers le jeûne de Tisha B'Av. Et là, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. D'habitude, tout dans la Torah se fait par 10. Il y a tout dans la Torah, les grandes choses se font par 10. Il y a 10 commandements, 10 paroles de la création du monde, il y a les 10 plaies d'Égypte, il y a les 10 épreuves d'Abraham Avinu, il y a les 10 miracles qu'il y avait dans le Beth Amikdash, il y a 10 générations de Adam jusqu'à Noah, 10 générations de Noah jusqu'à Abraham. Plein de choses qui sont 10. 10 choses qui ont été créées à l'entrée du Shabbat. Voilà. Bon, il y a toute une série de 10 choses. C'est-à-dire, quand quelque chose est très grand, ça se passe en 10. En un peu moins grand, ça se passe en 7, n'est-ce pas? Il y a des choses de 7, parfois 4. 10, 7 et 4 sont les, disons, les chiffres typologiques. Hein? Si tu as par exemple Arba Midot Benotet Tzedaka, dans la fin de Pirkei Avot, dans le cinquième chapitre de Pirkei Avot, tu as des listes de 10, de 7 et de 4. Et il y a les jours de Tisha B'Av et 17 Tammuz, 17 Tammuz et Tisha B'Av. Alors, le 17 Tammuz, la Mishnah dans Maseret Ta'anit nous dit qu'il s'est passé 5 choses à nos ancêtres. Et 5 choses sont passées avec nos ancêtres à Tisha B'Av. 5 plus 5, ça fait 10. Mais on s'attendrait à ce que ça se passe ensemble. D'abord, ça veut dire deux choses très importantes. D'abord, que quand il y a des malheurs, ils ont une date. C'est-à-dire, le jour fait pour que ça aille mal, c'est Tisha B'Av. Effectivement, dans l'histoire, par la suite, il y a eu plusieurs choses qui sont passées à Tisha B'Av, des mauvaises choses, telles que par exemple l'expulsion des Juifs d'Espagne, la déclaration de la Première Guerre mondiale. Des tas de choses de ce genre se sont passées à Tisha B'Av. Et puis il y a eu cette mauvaise chose aussi qui sont passées le 17 Tammuz. Il y a eu même un gouvernement israélien qui a eu sa première réunion de gouvernement à un 17 Tammuz. Mais je ne vais pas rentrer dans la question de savoir c'était lequel. Enfin bref, il y a des choses qui se passent mal. Si ça se passe mal, il y a une date pour ça. C'est très important. Ça veut dire que quand il se passe quelque chose de mal, ce n'est pas le désordre. On pourrait penser qu'on est rentré dans le chaos. Ça veut dire qu'il y a un ordre dans le désordre. Et ça, c'est une consolation. Parce que ça veut dire, ça va mal, mais t'en fais pas, c'est prévu. Donc, ça fait partie d'un ordre qui a une certaine cohérence, une certaine logique.
Et si ça va mal, ça ne peut qu'aller mieux.
Et si ça va mal, ça ne peut qu'aller mieux, pourquoi tu dis ça? Si le mal a un ordre, ça veut dire que ça ira mieux. D'accord? Mais sinon, ça peut aller pire. C'est-à-dire, si tout est le désordre total, chaotique, il n'y a pas de date, à n'importe quel moment, il peut se passer un malheur, alors c'est très grave. Mais si à chaque fois que le temple est détruit, ça se passe à Tisha B'Av, c'est que ça a un sens. D'accord? Comment? Au niveau du klal, évidemment. Au niveau du klal individuel, il y en a tout le temps, malheureusement. Et donc, il y a... c'est au chiffre de 10, c'est encore plus important. Si c'est 10, ça veut donc dire que ça fait partie de l'ordre absolu de l'histoire. Mais c'est un 10 coupé en deux, 5 et 5. C'est-à-dire que c'est un ordre, mais un peu désordonné quand même. Combien de doigts est-ce qu'on a? 20. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai. Mais les doigts de la main, on en a combien? 5. Donc, je fais exprès. Donc, c'est-à-dire, on pourrait dire dans les deux mains, il y a donc 10 doigts. Mais quand les mains sont ensemble, ça fait 10. Quand elles sont séparées, ça fait 5 et 5. Eh bien, c'est un peu ça ce qui se passe, 17 Tammuz et Tisha B'Av. Le 17 Tammuz, c'est le commencement de la catastrophe. Tisha B'Av, c'est la fin de la catastrophe, c'est l'achèvement de la catastrophe. Et si on étudie ce qui s'est passé le 17 Tammuz, ce sont 5 commencements. Et à Tisha B'Av, ce sont 5 achèvements. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Quel est le premier événement qu'ont connu nos ancêtres, d'après la Mishnah? Les louchot, c'est-à-dire l'étape de la loi, ont été brisées. Nishtaberu à louchot. Et on voit bien qu'on ne dit pas Moshe a brisé, elles ont été brisées. Nishtaberu. C'est comme si elles sont brisées d'elles-mêmes. La deuxième chose. Ça, c'est la troisième chose. La deuxième chose. Bouta la tamide. C'est-à-dire le sacrifice perpétuel a cessé. D'accord ? Ce jour-là, on n'a pas pu présenter le korban atamid. Et la troisième chose, c'est-à-dire ufkea ha'ir, c'est-à-dire la muraille a été éventrée. Quatrième chose, apostamos a brûlé la Torah. Qui est cet apostamos ? Il faudra savoir. Et la cinquième chose, ohamad tselem ba'echal. C'est-à-dire une statue, enfin une idole a été installée dans le Echal, dans le sanctuaire. D'accord ? Bon, alors essayons de comprendre ce que ça veut dire tout ça. Si les tables de la loi peuvent être brisées, ça veut dire qu'une faille est possible dans la Torah elle-même. Les tables de la loi, c'est la Torah. Elles ont été brisées, c'est-à-dire que la Torah a été brisée. Petite question, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose que les tables aient été brisées ?
Si on considère que se briser, ça peut renforcer les choses derrière, alors c'est une bonne chose.
Qui c'est qui les a brisés ?
Moshe.
Moshe. Pourquoi est-ce qu'il les a brisés ?
Parce que le peuple a fait l'arbre d'Azara.
Et alors ? Parce que le peuple a fait l'arbre d'Azara, tu brises les tables ?
Le peuple n'était pas capable de recevoir.
Ça veut donc dire qu'il a sauvé le peuple. Il a brisé les tables de la loi pour sauver le peuple. Le Midrash raconte ça de manière quasi humoristique. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ils ont transgressé ma loi. Et alors Moshe dit, quelle loi ? Ben, il y a écrit, tu ne feras pas d'idole, tu ne te prosterneras pas. Moshe dit, où est-ce que c'est écrit ? Alors Moshe, Akadosh Baruch Hu lui répond, dans les tables que tu tiens dans tes mains. Alors Moshe les brise et dit, maintenant où est-ce que c'est écrit ? Oui, il y a un Midrash comme ça. C'est-à-dire qu'en fait, Moshe brise la Torah pour ne pas briser le peuple. Donc, il y a en ça du bien. C'est pour ça qu'on dit à Luchot Arishoni, Macher Shibarta, les premières tables que tu as détruites, que tu as brisées, Asher, que, ça peut se traduire également, Yishar Kochacha chez Shibarta. Tes mains sont droites d'avoir brisé. C'est-à-dire, c'est une Akadosh Baruch Hu félicite Moshe d'avoir brisé les tables de la loi. Donc, en fait, le premier des événements du 17 Tammuz est un événement positif, étant donné les conditions. D'accord ? Quand quelque chose est bon, comment est-ce qu'on dit bon en hébreu ?
Tov.
C'est combien en Gématria ? 17. C'est donc le Tov qu'il y a dans Tammuz. Le 17 du mois de Tammuz, c'est ce qu'il y a de bien dans Tammuz d'avoir brisé les tables de la loi. D'accord ?
Dans chaque élément qu'on va voir, il y aura une chose de bien qui va.
C'est possible, mais en tout cas dans la brisure des tables de la loi, c'est évident. Et donc il y a une faille qui commence dans l'absolu, dans la Torah elle-même, ça commence par les tables de la loi. Petite question. Où est-ce qu'elles sont, les tables de la loi ? Dans l'arche. Et où elle est l'arche ? Dans le Kodesh HaKodashim. On a étudié ce thème ? Non. Elles sont dans le Kodesh HaKodashim. Le Kodesh HaKodashim, c'est où exactement ? Dans la partie la plus profonde du Beit HaMikdash. D'accord ? C'est le centre du centre du centre. Et puis le deuxième événement, c'est le sacrifice perpétuel a été interrompu. Bouta la Tamid. Où est-ce qu'on le fait, le sacrifice perpétuel ? Où ça, dans le Beit HaMikdash ? Où ça, dans l'intérieur ? Hein ? On fait le sacrifice sur l'arche, c'est-à-dire on prend... Où est-ce qu'on fait le sacrifice ? Sur l'autel, n'est-ce pas ? Sur le Misbéar. Où est-ce qu'il est, l'autel ? Il est dans la cour. Il est dans la cour extérieure. Ouais, le Tamid, c'est une brebis. N'est-ce pas ? Qu'on fait le matin et et l'après-midi. D'accord ? Donc, ça se fait dans la cour extérieure. Alors, la cour extérieure, elle est à l'extérieur. Ça veut dire que la faille qui commence dans le plus fort intérieur va en se diffusant vers l'extérieur. Le troisième événement, c'est la muraille a été éventrée. Où est-ce qu'elle est, la muraille ? À Jérusalem. Mais où ça, à Jérusalem ? À l'extérieur de l'extérieur. C'est-à-dire, elle est encore... C'est-à-dire, ça continue. Vous voyez, c'est comme si comme une onde sismique, comme dans un tremblement de terre. Il y a un épicentre, et puis après, ça va en grandissant. Les cercles concentriques. Oui, mais c'est quand même important. C'est-à-dire que ça brise la lumière de Jérusalem. Mais ça a commencé en fait par le fait que les tables de la loi ont été brisées. Les tables de la loi sont brisées, alors le sacrifice perpétuel aussi est brisé et ça brise également la muraille. Ça va de plus en plus vers l'extérieur.
Mais pourquoi on n'aura pas pris la chose autrement, dans le sens où comme une aiguille traverse la peau, ça va de l'extérieur vers l'intérieur, mais ça traverse.
Oui, ben justement, là c'est le contraire. C'est une aiguille qui va de l'intérieur vers l'extérieur.
Donc on fait sortir le mal en réalité.
C'est pas qu'on fait sortir le mal, ça veut dire qu'une faille, qui est quelque chose d'extrêmement profond dans le monde métaphysique, eh bien, ça continue vers l'extérieur. Oui ?
Si vous avez comparé, donc c'est ça, il y a un sismique, avec les puissances, plus on est loin des puissances,
moins c'est fort, effectivement. Le plus fort, c'est le table de la loi. Mais ma petite question, c'est ça s'est passé à quelle date, vous avez dit, le 17 Tammuz ? Vous avez qu'à regarder dans la Bible, dans le livre de Melachim, pour chercher à quelle date la ville a été éventrée, la muraille. Si vous regardez dans le livre de Melachim, et bien vous voyez que c'était le 9 Tammuz. C'est ce qu'il y a écrit.
Ça a commencé alors le 9 Tammuz, mais ça s'est terminé à la fin et c'est quand même vraiment le 17 Tammuz.
Écoutez, nous allons pour cela prendre un livre très important qui va nous aider dans la question. C'est dans le livre de Melachim, ou dans Yirmiyahu, je ne m'en rappelle plus très bien, nous allons voir. Hein? Ah bon? Ah bon? Tu dis que dans Melachim, on ne parle pas de ça. Ah bon? Vous allez voir ce que vous allez voir. Comment?
C'est qui a fait le trou dans la vache? Non, c'est pas le Melachim, c'est fini à. Comment ça
s'appelle? Voilà. Je lis ici dans Melachim Bet, au chapitre Kafhe, 25. D'accord? Verset Aleph. Vayehi Bashana Bishnat Tishirit Lemolcho. Ce fut lors de la 9e année de son règne. Bachodesh Asiri Beasor la Chodesh. Lors du 10e mois, le 10e du mois. C'est quoi ça? Le 10 quoi?
Le 10e du mois. C'est...
De quel mois? Du 10e mois. 10e mois, le 10e jour. C'est quoi le 10e mois?
Parce qu'on parle de Nissan ou Tishri.
C'est Tevet. D'accord? C'est donc Tevet. Le 10e mois à partir de Nissan, c'est donc le 10 Tevet. Ba Nevuchadnetzar Melech Bavel. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, est arrivé et il commence le siège, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'on jeûne le 10 Tevet. Vatavo Air Bamatzor, et la ville fut en siège, ad Astre Sreshana, la mère jusqu'à la 11e année du roi Tzidkia. Donc pendant 2 ans, il y a eu le siège. Betisha la Chodesh, lors du 9e jour du mois, Vayehezak Arav Bahir. La famine était forte dans la ville. Veloya Lechem Leamaret. Il n'y avait plus de pain pour le peuple. Vatibaka Ha'ir. Et la ville a été éventrée. Donc ça s'est passé le 9 Tammuz. Pourtant, dans la Mishnah, on dit le 17.
Qu'est-ce qui s'est passé en une semaine?
Alors il y a, pour expliquer cette contradiction, deux interprétations. L'une du Talmud de Babylone. Et l'autre du Talmud de Jérusalem. Dans le Talmud de Babylone, on dit la chose suivante. C'est que le 9 Tammuz, c'était que la muraille a été éventrée lors du premier temple, la destruction du premier temple. Et le 17 Tammuz, c'est pour la destruction du deuxième temple. Comme nous sommes le résultat de la destruction du deuxième temple, donc nous signalons le 17 Tammuz et pas le 9. D'accord? C'est pas drôle. Est-ce que le 17 Tammuz? Et donc, c'est comme ça que qu'explique le Talmud Bavli. Dans le Yerushalmi, on dit pas du tout. Même le premier temple, c'était le 17 Tammuz. Et s'il y a écrit le 9 dans le Tanakh, c'est parce que le prophète s'est embrouillé. Tilt. Ça veut dire quoi un prophète qui s'embrouille? Vous vous rendez compte, un prophète qui s'embrouille? Ça veut dire que la prophétie est embrouillée. Et alors, ça veut dire, alors le Yerushalmi dit, c'est comme un roi qui était en train de faire des comptes. Il écrivait ses comptes, les comptes de son royaume. Et puis, quand il était en train d'écrire, on lui a annoncé la mort de son fils. Alors, il a été troublé, il a mal écrit. Alors, c'est comme si on disait que le 17 Tammuz, c'est un embrouillement. C'est, la Torah, le Tanakh a écrit le 9, parce que Kiviyachol, c'est comme si Akadosh Baruch Hu avait trébuché. Ça veut dire qu'il y a une faille métaphysique. Un dérangement en haut. Et ce dérangement en haut, après, se traduit par ce qu'est le 17 Tammuz. Maintenant, ça veut dire que... Pourquoi c'est tellement important? Parce que ça veut dire que lorsqu'on est dans le malheur, il ne faut pas croire qu'on est détaché de Dieu qui est un être totalement parfait. Lui aussi se comporte à la manière d'un être imparfait, de sorte que, dans notre imperfection, nous lui ressemblons. Vous avez compris? C'est très fort. C'est ce que dit l'Yerushalmi. Bon, maintenant, revenons au problème du roi qui a écrit. Qu'est-ce qu'il voulait écrire, le roi? Il voulait écrire 17, n'est-ce pas? Et ça lui est sorti 9. Comment ça se fait? Non, mais comment 17 devient 9? Comment vous écrivez 17 en hébreu? Yud-Zayin. N'est-ce pas? Yud-Zayin. Alors, c'est un indice comme ça. Quand vous faites une rature entre le Yud et le Zayin, ça devient un tête. Vous faites Yud et Zayin. Mais vous écrivez le Yud et puis vous avez fait une rature. Vous avez rattaché le bas du Yud au bas du Zayin, ça devenait la lettre tête. Ce qui donne 9. Autre possibilité, c'est qu'il ait voulu écrire 17 et il a voulu écrire Tov. Et puis, il s'est arrêté au milieu. Et donc ça donnait tête. D'accord? C'est-à-dire, maintenant, tête, c'est le début du Tov. C'est-à-dire, c'est le bon, le bien dans son origine. D'accord? C'est ça qui s'est manifesté. Donc, nous avons commencé à comprendre les trois premiers événements du 17 Tammuz. Ça commence de l'intérieur Kodesh Kodashim, la faille continue vers le Misbéar, vers l'autel, et ça continue vers la muraille. Quatrième événement, on avait dit Apostamos a brûlé la Torah. Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce qu'il y a en dehors de la muraille? Et le reste du pays. Donc c'est Eretz Israël. Qu'est-ce que ça a à voir avec le fait que la Torah a été brûlée par Apostamos? D'abord, qui est cet Apostamos? Apostamos, c'est la forme employée par la Mishnah pour le nom latin Postumus. Postumus, c'est un nom qu'on trouvait souvent chez les soldats romains. En français, posthume, c'est-à-dire celui qui naît après la mort de son père. Quand un enfant naissait après la mort de son père, on l'appelait Postumus. Il est né après la mort. De même que un aîné, chez les latins, on disait primo. Et un cinquième enfant était appelé quintus. Ils n'étaient pas très originaux, les Romains. Ils réfléchissaient pas beaucoup. Alors, ils avaient des noms comme ça, un peu techniques. Oui. Ils sont fous, ces Romains. Oui. Oui. Alors, le postumus en question était un soldat romain. Alors, quel est l'événement en question? Parce que des rouleaux de la Torah qui ont été brûlés, c'est arrivé plusieurs fois. On ne fait pas pour ça un jeûne national. On jeûne le jour même, etc., enfin, ou un an après, mais on ne fait pas de ça quelque chose pour les générations à venir. Il s'est passé quelque chose. À mon sens, ce qui s'est passé, c'est l'événement ramené par Flavius Joseph. Flavius Joseph raconte comment est-ce que la révolte a commencé. La révolte qui a amené la chute de tout Eretz Israël. Il raconte qu'il y a une troupe romaine qui s'est fait agresser par des brigands dans la région de Beth-Horon. Et à la suite de quoi, les Romains ont fait des recherches dans les maisons juives alentour pour trouver les agresseurs. En faisant les recherches, un soldat romain a trouvé un Sefer Torah et l'a brûlé. Et c'est ça qui a entraîné la révolte. C'est ce que dit Flavius Joseph. Donc l'événement en question n'est pas un événement local, c'est un événement national. C'est la faille qui continue sur tout Eretz Israël. Et Flavius Joseph dit une chose assez surprenante. Lorsque les Juifs ont appris qu'un Romain avait brûlé la Torah, c'était dur pour eux, dit-il, comme si on brûlait, devinez quoi, une partie de leur terre, une partie du territoire. C'est-à-dire, quand on veut dire que quelque chose est très grave, on prend comme exemple quelque chose d'encore plus grave. C'est-à-dire, brûler la Torah, Tu veux savoir comment c'est grave? C'est grave comme si on prenait une partie d'Eretz Israël. Vous vous rendez compte ce que ça veut dire? C'est-à-dire que prendre une partie d'Eretz Israël, c'est encore plus grave que brûler la Torah. C'est-à-dire que les juifs de l'époque étaient des juifs normaux qui savaient que donner une partie d'Eretz Israël, c'est encore plus grave que de donner la Torah.
Les juifs normaux,
on va dire.
Oui? C'est-à-dire que, parce qu'ils étaient paysans, donc ils avaient besoin de la terre?
Tout le monde a besoin de la terre. Comment, si Israël n'a pas sa terre, comment est-ce qu'il va être prophète? C'est possible, enfin disons ça, c'est une extrapolation. Donc nous sommes arrivés au quatrième point de l'onde destructive de 17 Tammuz. Ça va de plus en plus large, n'est-ce pas? C'est quoi le cinquième? On a mis une idole dans le sanctuaire. Ah, comment? Quoi le? Ah justement, on ne sait pas très bien. Il y a différentes opinions. Il y en a qui disent qu'il s'agit de la statue qui a été posée par Achaz ou par Ménaché. Certains disent qu'il s'agit de l'événement avec Antiochus qui a profané par une idole de Jupiter, de Zeus, olympien, le temple. Il y en a qui disent que c'était la tentative de Caligula de mettre son effigie. Certains disent qu'il s'agit du temple d'Adrien. Après avoir détruit Jérusalem, après la révolte de Bar Kokhba, il a fait un temple idolâtre là-bas pour Jupiter Capitolin. Et donc, c'est pas très clair, n'est-ce pas? Quand est-ce que ça s'est passé? Mais, quel que soit le moment où ça s'est passé, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne cadre pas avec la progression qu'on a vue jusqu'à présent, qui va de l'intérieur vers l'extérieur. Ça revient à l'intérieur. À moins de comprendre ça au sens figuré. C'est quoi le sanctuaire? Si on avait vu qu'il y avait Kodesh HaKodashim, après la Hazara, après la muraille, après Eretz Israël. Donc, le sanctuaire, c'est le monde. Le monde, c'est le sanctuaire de Dieu. Ava Hashem Be'echal Kodesho, Dieu dans son saint sanctuaire, Has Mipanav Kol Haaretz. Toute la terre se tait devant lui, dit le prophète Habakkuk. Donc, il y a eu un tselem qui a été mis dans le monde. C'est quoi? Les idoles? Quoi, la Avodah Zara? Mais la Avodah Zara, c'est pas quelque chose dans le sanctuaire. Parce que, non, une seconde. La Avodah Zara. Si quelqu'un veut servir à Kadosh Baruch Hu, il le fait dans le Beth Amikdash. S'il veut servir les idoles, il va en dehors. Il est à l'extérieur. Il n'est pas dans le Echad. Mais il y aurait une manière d'être idolâtre au nom de Dieu. Ça s'appelle comment, ça? Le christianisme. C'est-à-dire que, Le résultat de la faille du 17 Tammuz, c'est que finalement arrive ce qu'on appelle la minute, c'est-à-dire l'idolâtrie au nom de la Torah. Et ça se passe, c'est comme si on avait mis une idole dans le monde, dans le sanctuaire de Dieu. Vous avez compris? Donc, c'est ça le cinquième événement. Maintenant, en quoi c'est lié au 17 Tammuz, je ne sais pas. Est-ce qu'il y aurait un événement qui aurait établi le christianisme dans le monde qui se serait passé le 17 Tammuz? Il faudrait voir les dates des conciles, des trucs de ce genre. Donc vous avez compris, tout ça ce sont des débuts, ce sont les cinq premiers événements du 17 Tammuz. Jusque là vous me suivez? Bon. Après on en arrive aux achèvements. D'accord? Comment? Et bien, on va passer donc au 9 Av. D'accord? Le premier événement du 9 Av c'est... Non. Hein? C'est-à-dire que à la suite des miraglim, ça s'est passé le 8 Av, le 9 Av a été décrété qu'il resterait dans le désert et qu'il ne rentrerait pas en Eretz Israël. La génération, toute la première génération, ne rentrerait pas en Eretz Israël. C'est-à-dire, on commence par la faute du veau d'or et on finit par la faute des explorateurs. La différence entre les deux est très simple. La faute du veau d'or, c'est de faire les choses trop tôt. Et la faute des explorateurs, c'est de les faire trop tard. Et il y a deux manières de fauter. Ben oui. C'est-à-dire, le veau d'or, c'était, ils ont voulu faire un culte, ils ont été pressés. Il fallait attendre que Moshe descende et dise de faire le Mishkan, d'amener les Kruvim. Ils n'ont pas attendu. Les Miraglim, c'est le contraire. Le moment est arrivé d'entrer, ils ne veulent pas. D'accord? C'est soit faire trop tôt, soit c'est trop tard. Selon le principe, avant l'heure, c'est pas l'heure, après l'heure, c'est plus l'heure, c'est l'heure. Qu'est-ce qui est plus grave, de faire trop tôt ou trop tard? Trop tard, c'est plus grave, évidemment. La faute des explorateurs est effectivement beaucoup plus grave que la faute du veau d'or. Jusque-là, vous me suivez. Bon. Où est-ce qu'on en était? Oui, donc c'est ça la première des cinq choses qui se sont passées à Tisha B'Av. La deuxième chose, s'il vous plaît.
Donc c'est l'achèvement.
Oui. Oui, sinon, c'est-à-dire que ça a commencé. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, on n'en serait pas arrivé au Miraglim. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas eu la faute du veau d'or, ils auraient reçu la Torah tout de suite et ils seraient rentrés en Eretz Israël. D'accord? Ils ne l'ont pas fait. Expliquons-nous un peu plus. Moshe devait descendre donc avec l'étape de la loi le 17 Tammuz. Il serait arrivé, donc le 17 Tammuz aurait été le jour de Kabbalat HaTorah. Qu'est-ce qu'ils auraient fait le lendemain matin? Ils auraient marché vers Eretz Israël. La Torah dit dans le livre de Devarim qu'il y a 11 jours depuis Chorev jusqu'à Kadesh Barnea. Kadesh Barnea qui est la ville frontière d'Eretz Israël. Donc en 11 jours, il serait arrivé. Ça aurait donc été le... Non, le lendemain. Donc, ça aurait été le 29 Tammuz. Donc il serait rentré en Eretz Israël pour le premier Av. Donc le premier Av aurait été la fête de la Géoula. D'accord? C'est-à-dire que le mois de Av, c'est un mois de Géoula. Exactement. Maintenant, petite question. Un petit Av, ça se dit comment en hébreu? Petit Av. Aviv. Un petit arbre, Atzitz. Donc, le mois de Aviv, qui est le mois de Nissan, c'est une petite Géoula par rapport à Av, qui est la vraie Géoula. Et donc, si tout avait marché, donc le premier du mois d'Av, il serait rentré. Ils auraient fait après une fête de 8 jours pour fêter l'entrée en Eretz Israël. Et donc le Tisha B'Av aurait été l'achèvement Shalom. Quelqu'un? Attends, va Eshra Mafter? C'est beau, Tikar. Et donc le Tisha B'Av aurait été le jour de l'achèvement, c'est-à-dire aurait été l'apothéose. D'accord? Maintenant, les prophètes nous ont dit que viendra un jour où notre deuil sera transformé en joie. Donc la fête de Tisha B'Av, le jour de Tisha B'Av sera un jour de fête. Combien de jours de fête? 7. Vous arrivez au 7e jour de Tisha B'Av, ça tombe le 15 Av. Le 15 Av, un jour de fête. D'accord? C'est le jour où on fêtait le fait que le décret interdisant d'entrer en Eretz Israël a été aboli. Donc c'est le contraire de Tisha B'Av. Donc le 15 Av, c'est pour ça qu'on faisait une fête en Eretz Israël à l'époque. Hein? 7 jours après. Le 7e jour. Donc 9 plus 6, ça fait 15. Donc c'était 7 jours. Et donc, le Tisha B'Av, c'est donc le jour où nous n'avons pas pu rentrer en Eretz Israël. Deuxième événement malheureux de Tisha B'Av. Destruction de quoi? De quel temple? Le premier. Troisième événement malheureux, destruction du deuxième temple. D'accord? Sur la même date, évidemment. Si c'est déjà bien, c'est donc la même date.
Oui, un même événement n'est pas. Un même événement dans le même lieu, ça ne correspond pas au 17e.
Si. La destruction du premier temple, elle correspond au renvoi de la Shekhina. La Shekhina résidait sur l'autel, sous la forme d'un lion de feu. Et donc, ça commence par l'empêchement de faire le sacrifice sur l'autel, et ça finit par la destruction du premier temple. Tandis que le deuxième temple n'avait pas la Shekhina, mais il préservait Israël dans son unité. C'était comme une muraille. Donc c'est le troisième événement, la muraille détruite, ça correspond à la destruction du deuxième temple. D'accord? Quatrième événement, on avait dit, Tisha B'Av, qu'est-ce qui s'est passé? La chute de Beitar. D'accord? C'est quoi Beitar? C'était la citadelle de... J'ai rien compris. De... De quelle révolte? Celle de Bar Kokhba. C'est donc la citadelle de Bar Kokhba. Et c'est là qu'il y a eu une catastrophe. Le peuple, ça a été pire que... C'était un peu comme la Shoah à l'époque. Il y a un débat entre les historiens pour savoir s'il y a eu 500 000 tués ou 1 million. Ça se discute. Certains disent 500 000, certains disent 1 million. Oui. La Guémara dit un chiffre énorme, 4 millions. Mais c'est certainement une exagération. D'accord ? Parce que c'est l'habitude de la Guémara d'exagérer. Parce que le Rav Kook dit que la Guémara, en fait, les Chachamim du Midrash, etc., voyaient dans la réalité des choses que nous ne voyons pas. Ils ont vu beaucoup plus que ce que l'œil humain peut voir. D'accord ? Donc, en tout cas, ça allait très mal, quoi. C'est, on peut dire que c'était l'échec de la tentative messianique. C'est-à-dire, après la destruction du deuxième temple, il y a eu un espoir messianique. Bar Kokhba a tenté d'être le Mashiach, de libérer Israël, et ça n'a pas réussi. Et le cinquième événement, hein ? La ville de Jérusalem a été labourée. Et labourée et semée de sel. C'était une habitude dans l'Antiquité, quand on voulait dire qu'une ville ne se relèvera plus de ses ruines, on faisait un sillon dans l'endroit de la ville et on jetait du sel. Le sel ne pousse pas. D'accord ? C'est une manière de. Comment ? Ça tue la terre, mais c'était aussi une manière de dire, de même que le sel ne peut pas être semé, ça ne donne rien, alors de même, cette ville ne renaîtra pas. D'accord ? Je crois que dans la réalité, il y a quelque chose qui a été prouvé, qui contredit ça, n'est-ce pas ? Oui, nous vivons aujourd'hui donc une génération extraordinaire, en dépend. Donc c'est ça les cinq événements de Tishra B'Av. La chute de Bétard et brûler la Torah, c'est exactement la même chose. Comment est-ce que Bétard est tombé ? Lorsque Bar Kokhba a tué son oncle Rabbi Elazar ben Shammua. N'est-ce pas ? Et le cinquième événement, c'était avoir mis une statue. On avait dit que c'était le christianisme. L'argument du christianisme, c'est qu'Israël ne se relèvera jamais. Ben voilà. On s'est relevé. C'est super, hein, quand même, d'avoir un peuple immortel. Oui. Oui ?
Et en quoi les événements de 17e mousse, on le promet d'accord, mais en quoi ce sont des commencements ? Finalement, est-ce que quand Apostol Mousse brûle un.
C'est le début de la révolte.
Le début de la révolte, hein.
Ouais. Le Talmud, ben, c'était pas vraiment la chute. Ils avaient pas assez de bêtes pour les mettre sur le Talmud, ils faisaient encore la guerre. L'ennemi n'était pas encore entré.
Donc c'est un
commencement
pour autant.
Un commencement.
Ouais, c'est un commencement pour autant,
mais oui, c'est un commencement de la chute. C'est-à-dire que la Shekhina n'a plus de prise. C'est comme si on disait, on peut comparer la Shekhina à une flamme. Elle a besoin d'une mèche. La mèche, c'est le tamid. D'accord ? Bon. Qu'est-ce qui sonne tout le temps ? Bon. Et puis, où est-ce que j'en étais ? Oui, alors donc, ça, c'est les cinq événements des Tisha B'Av. Petite question, combien de choses sont interdites à Tisha B'Av ? 5. Ah ? Surprenant. Est-ce qu'il y aurait un rapport ? Hein ? Il y a toujours un rapport. Évidemment, il y a un rapport. C'est quoi la première des choses interdites ? De manger, oui. La deuxième ? De boire. La troisième ? De se laver. De se laver, oui. La quatrième ? Non, ça c'est la cinquième. Déporter des chaussures. Et la cinquième, les rapports conjugaux, n'est-ce pas ? Donc tout cela est interdit à Tisha B'Av. Et pourquoi ? Ben, à cause de ces cinq choses-là, justement. C'est-à-dire, rentrer en Eretz Israël, c'était pour manger des fruits de la terre. C'est ce que dit la Torah. Manger les fruits de la terre d'Israël, c'est pas n'importe quoi. La Shrina est présente dans les fruits, etc. Donc, cette consommation des fruits de la terre a été interdite à nos ancêtres, donc nous ne mangeons pas. Et puis, l'époque du premier temple, c'était l'époque de la prophétie. La prophétie est considérée comme une boisson. Oui, et on dit par exemple que le prophète Yona prophétisait en venant à la joie qu'on faisait pour Beth Ashoeva, lorsqu'on puisait l'eau pour jeter sur l'autel. Et comme ceci a été aboli, donc nous ne buvons pas. La caractéristique de l'époque du deuxième temple, c'est la pureté individuelle. D'où la takana qui a été faite par Ezra, de ne pas prier ou de ne pas étudier si on est impur, et qu'il faut d'abord se tremper dans le mikvé, n'est-ce pas? C'est donc le se laver qui caractérise l'époque du deuxième temple, la tahara, la pureté. Ça a été aboli, donc nous ne nous lavons pas le jour de Tisha B'Av. Non, de nos jours, c'est pas la même chose. Mais à l'époque du deuxième temple, il était interdit à quelqu'un qui avait une impureté corporelle de faire la prière ou d'étudier la Torah tant qu'il ne s'était pas trempé dans le mikvé. D'accord ? Et le quatrième événement, on avait dit la chute de Beitar. C'était quoi la chute de Beitar ? C'était une tentative messianique. Une tentative messianique, c'est donc une sandale. Bien sûr. C'est-à-dire, le Mashiach représente dans les générations. Si on prend les générations depuis Adam Harishon jusqu'à la dernière, Adam Harishon correspond au haut de la tête, le Mashiach à Ekev. Ekev, c'est-à-dire le talon. De plus, il y a, c'est une sorte d'avortement messianique. La forme, vous avez déjà vu un avorton ? Oui, un avorton, vous avez déjà vu ? Non, pas un enfant, il n'est pas vraiment vivant. C'est quelque chose qui aurait pu être un enfant et qui n'a pas réussi. Ça a une forme de quoi ? La Gemara dit, ça s'appelle une forme de sandale. Oui ? Et puis là, sandal. Et donc, comme ça n'a pas marché, on ne porte pas de sandal. Et le cinquième événement, c'est que la ville a été labourée. C'est-à-dire que le labour, c'est une métaphore du rapport conjugal. Comme ça a été labouré par les autres, alors nous nous interdisons le rapport sexuel le jour de Tisha B'Av. D'accord ? Donc, il y a ici une correspondance. Vous avez compris ? 5 plus 5 plus 5. Oui.
Pourquoi dans les lois Vaïchi d'Auteuil, on a par exemple, pour la première semaine, le lendemain, il était placé dans la porte des chaussures et pas au ration.
Oui. C'est la même chose.
Pourquoi pas manger?
Ah, pendant 7 jours, ça c'est difficile.
Je veux dire, le soir, il fait qu'on est même.
Ouais. C'est difficile de ne pas manger.
Ce serait difficile, mais quand on mange le soir, ça va vous reprendre de la France pour un peu.
Ah, donc on ferait 7 jours de...
Bon,
essayez, si vous voulez. C'est possible. Maintenant, il y a un livre que... Vous savez qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av. Mais bien qu'on n'a pas le droit d'étudier la Torah à Tisha B'Av, il y a des tas de choses qu'on a quand même le droit d'étudier. Ce qui fait qu'il y en a tellement qu'on peut étudier des quantités de choses. Oui, ou bien les halakhot du deuil, ou bien le livre de Megillat Echa, ou le livre de Yov. Le livre de Yov, on le lit en entier à Tisha B'Av. Hein? Dans ma synagogue, par exemple, ça se fait. Ça prend quelque chose comme 2 heures à peu près, en 1h45 en vérité, ça prend pour lire tout le livre de Yov, avec des très beaux théamim, tout le monde fait ça ensemble, etc. Venez, vous verrez. Si on continue à faire Tisha B'Av, évidemment. Et combien de personnages discutent dans ce livre ? On voit 4. Qui sont ?
Les 3 amis de Job.
Les 3 amis de Job, oui. Job, et puis ? Non. Elihu. Le quatrième, c'est Elihu, qui intervient à la fin de la discussion. Ça fait donc en tout 5. Ah tiens, pourquoi 5 ? Y aurait-il un rapport ? Certainement. Essayons de voir un peu. Les 5 personnages dans le livre de Yov qui discutent du problème de la souffrance, le premier, c'est Eliphaz, n'est-ce pas ? D'où est-ce que Eliphaz sait ce qu'il sait ? Ben dans ce livre, on voit que Eliphaz est prophète. Le deuxième, Bildad, n'est pas prophète, mais il a des traditions. Ce qu'il sait, il le sait par tradition. Le troisième, Tsophar, n'est ni prophète ni de tradition, mais il est philosophe. C'est par son intelligence. Le quatrième, qu'est-ce qu'il y a encore ?
Le quatrième.
C'est Elihu. Et ce qu'il sait, il le sait par intuition. Intuition profonde. Une sorte de révélation intérieure. Et le cinquième, c'est Iov lui-même, qui a la souffrance. Sa souffrance le fait parler. C'est-à-dire, il s'en fiche pas mal de savoir ce que dit le prophète, la tradition, le philosophe, les intuitions. Il dit, j'ai ma souffrance. Et ma souffrance est un argument. C'est-à-dire, il réfute les arguments des autres. Il leur dit, vous dites des très belles choses, et moi je souffre. C'est ça l'argument qui revient toujours dans la parole de Yov. Oui, c'est-à-dire il est existentialiste en fait. Et bien ça correspond justement à ces cinq événements. Parce que la génération qui devait rentrer en Eretz Israël était une génération de prophètes. La deuxième avait celles qui sont rentrées en Eretz Israël a fait la tradition. Après, au deuxième temple, c'était des philosophes. Après, dans l'exil, ils avaient des intuitions. Et finalement, le cinquième, c'est Tzion. Parce qu'on dit que ce qui est arrivé à Yov est arrivé à Tzion, et inversement. Voilà. Donc vous avez les cinq événements. Oui, et la souffrance de Tzion, c'est ça qui amène sa Géoula. Parce que finalement, Yov refuse les enseignements de ses frères, de ses amis, et alors Akadosh Baruch Hu se révèle à lui. S'il avait accepté ce qu'il disait, Akadosh Baruch Hu lui aurait pas parlé. Donc heureusement qu'il a refusé, comme ça Akadosh Baruch Hu le libère, c'est exactement ce qui se passe de nos jours, Akadosh Baruch Hu nous libère de notre souffrance. De ne pas avoir accepté toutes les explications données sur notre souffrance. Donc c'est ça qui se passe lors de la Géoula. Donc vous avez ici les cinq événements de Tisha B'Av bien expliqués, correspondant aux cinq interdits de la fête, enfin du jour, et des cinq personnages qui dialoguent dans le livre de Yov. Jusque-là vous suivez ? Bon. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom.